Samedi dernier, s'est terminé le festival À nous la ville, une série d'événements organisés sur l'île et les environs par l'APU-FIV, l'Atelier populaire d'urbanisme, une association militante qui travaille sur les questions de droit au logement, mais plus généralement sur les questions d'urbanisme et de société. Rencontre avec un des bénévoles de l'asso, c'était vendredi dernier à la Bourse du Travail à l'île FIV.
Moi, c'est Pierre. Et je suis bénévole donc pour l'APU de FIV, Saint-Maurice, Pellevoisin, LM, donc les ateliers populaires d'urbanisme, qui est une asso de droit au logement et d'accompagnement des personnes qui sont en galère, des situations d'expulsion, des logements insalubres, des logements indécents, ou des demandes de logement social qui traînent en longueur, ce qui arrive assez fréquemment quand on voit le peu de logements sociaux disponibles pour les personnes. Donc ouais, j'interviens en tant que bénévole, à la fois dans un peu la participation à la vie de l'association, de son fonctionnement, mais aussi sur un peu sur l'accompagnement, tu vois, durant des permanences collectives, par exemple, qu'on mène.
Du coup, vous accompagnez les personnes qui viennent vous voir, vous les aidez juridiquement, vous les informez de leurs droits, vous faites les démarches avec eux, c'est ça ?
Ça peut être toutes les choses que tu viens de dire, dans le sens où... déjà le premier accueil, tu vois, ça se fait en permanence collective le samedi avec les bénévoles. En fait, le premier point, tu vois, c'est un peu de défricher un peu le dossier, d'apprendre à connaître aussi la personne, que la personne aussi apprenne aussi à connaître ce que c'est que l'APU et la manière dont on intervient. Et à ce moment-là, ça peut être juste un peu de l'info, donner quelques conseils, des pistes. Mais souvent, parce que c'est possible pour ça que les gens viennent, c'est pour dans la suite, c'est de l'accompagnement individuel. Donc justement sur les questions un peu juridiques, l'accès aux droits, mais ça peut être aussi d'activer aussi des droits régulièrement, mais aussi quand c'est des situations. D'expulsion locative par exemple, c'est de les accompagner pour soit empêcher l'expulsion en trouvant une solution en termes de paiement de loyer, si c'est question de loyer, en fonction de la situation, d'activer des droits, de faire valoir leurs droits, mais aussi si besoin, c'est de faire appel aussi à un avocat, une avocate pour les représenter en justice. Ça peut être pour se défendre, tu vois, sur une expulsion locative, mais ça peut être aussi d'attaquer aussi potentiellement quand des personnes vivent dans des logements indécents, insalubres, qui vivent dans un logement qui n'est pas isolé, qui a des problèmes d'électricité, qui a des problèmes X ou Y. Donc en fait, on va les accompagner et c'est un peu le principe de l'association, c'est ce qu'on dit, c'est la DLH, c'est-à-dire l'accompagnement des droits liés à l'habitat, où en fait, on accompagne globalement jusqu'à la réussite du dossier, ou en tout cas jusqu'à une sortie positive du dossier et qui correspond aussi aux attentes, tu vois, de la personne. C'est-à-dire qu'on va pas faire on va pas prendre des décisions pour les personnes, on les prend avec les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les personnes soient au courant de tout ce qui peut se produire et que la personne choisisse en son âme et conscience quelle stratégie elle souhaite adopter. Se maintenir dans un logement, sortir d'un logement pour trouver autre chose, tout ça, ça se discute avec la personne. Donc ça, c'est ce qu'on fait en termes d'accompagnement individuel. Et l'autre partie aussi, l'accompagnement collectif qui peut se produire aussi. C'est un exemple, c'est pas très loin d'ici, mais c'est pas très loin de... c'est à FIV. C'est un immeuble où ça fait 2 ans que les personnes en fait vivent dans de l'indécence parce que il n'y a aucun travaux qui n'est fait par le propriétaire, qui est un bailleur social, et toutes les personnes sont concernées. Donc là, on essaye, avec les personnes, de les informer de leurs droits, et si les personnes le souhaitent, de faire une action collective pour pouvoir demander des travaux. Donc voilà, c'est un exemple, hein. Donc ça peut prendre des formes de ce type-là. Et puis à côté, on fait aussi d'autres événements pour aussi se questionner sur ce que c'est que le logement et les problématiques liées au logement dans la métropole, mais plus globalement au niveau national.
On va en reparler, mais de là où vous êtes, j'imagine que vous observez aussi, une évolution, une dégradation peut-être, des conditions de logement dans la métropole lilloise. Comment vous voyez les choses un petit peu
C'est quand on regarde déjà, nous, la PU FIV, donc on est dans le quartier de FIV, et c'est quelque chose qui est quand même assez ancien comme problématique, parce que c'est aussi un parc ancien qui n'a pas forcément toujours été aussi entretenu par les propriétaires. Et donc nous, quand on accompagne des personnes, on voit un peu, tu vois, sur une logique un peu de tendance, mais aussi de toutes les personnes qui viennent nous voir sur une année, par exemple, et on voit que c'est quand même une problématique qui reste, hein, qui peut augmenter aussi par moment, parce que c'est des logements vétustes, des logements qui n'ont pas été isolés, c'est des logements qui sont pas forcément aux normes non plus en termes d'électricité, où il y a des travaux qui ont été faits à l'arrache pour ajouter une chambre, pour faire d'un appart déjà minuscule en faire deux ou voire trois studios pour pouvoir accueillir les personnes. Et donc là, sur cette question là en fait, clairement il y a des problèmes d'indécence à FIV, mais pas que, et surtout nous ce qu'on observe aussi, mais c'est plus, tu vois, c'est plus un contexte national aussi, c'est quand on regarde la loi Casbarian qui est passée l'année dernière, c'est aussi une attaque contre les locataires qui sont dans la galère, parce que quand tu as une loi qui passe et qui réduit les délais pour un propriétaire pour qu'il puisse demander une expulsion, quand ça augmente aussi les risques financiers aussi, hein, pour les personnes qui se retrouvent en situation de loyer ou autre, en tout cas qui se maintiennent dans leur logement, bah en fait il y a une situation qui se dégrade sur l'état du logement, sur aussi l'état psychologique aussi des personnes, où en fait c'est pas évident de gérer une expulsion, c'est pas évident de gérer des procédures juridiques, de devoir faire appel à une association, de devoir faire appel à un avocat, de se retrouver en justice parce que en fait on a eu un accident lié je sais pas, ça peut être des accidents de vie, on a perdu son boulot, on a eu un problème de santé, on a pu se séparer aussi de son conjoint ou sa conjointe, et on se retrouve à un moment donné dans la galère. Et ouais, on se retrouve peut-être dans une situation d'expulsion, et comment on la gère, quoi. Donc là, on accompagne les personnes, mais c'est pas évident, en fait, quand on voit toutes les lois, et surtout cette loi Casbarian qui complexifie vraiment la situation des personnes et leur possibilité de se défendre aussi, quoi. Personne ne puisse oublier, crier plus fort qu'un autre et le pousser à plier. Mais est-ce que l'oubli a toujours eu le silence pour allier le fait de t'être tu pendant tant d'années, humilié pour mieux fusiller ceux qui te traitaient tel un détritus? Dis-moi pourquoi en venir à se taire? La peur des coups, la peur de tout, la peur de soi peut-être. Et si tu prends la parole, émane-t-elle du fond des caves? Autrement dit, ta parole est-elle de celle qu'on écarte? Ha! Ta parole est-elle de celle qu'on encarte? A-t-on fait croire dès le départ que ton avis ne comptait pas?
On est toujours avec Pierre, bénévole de l'APU de FIV, Atelier Populaire d'Urbanisme. Cet asso a récemment vu une de ses subventions sauter. Plus d'explications avec lui.
C'est le département du Nord qui, l'année dernière, a retiré son soutien financier auprès des différents APU de Lille, que ce soit le Vieux-Lille, Moulins et FIV. On a tous été impactés par ces coupes de subventions à l'échelle juste de l'APU FIV. Pour parler au nom de l'APU FIV, nous, c'est quasiment 13 000 euros qu'on a perdu. 13 000 euros, c'est la moitié d'un ETP. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, l'enjeu qui se pose sur l'association, c'est comment à la fois compenser cette perte, cette coupe de subvention. C'est aussi comprendre en fait les logiques aussi, parce que le département du Nord, dans ce genre de situation, en fait, c'est quand même le social, à un moment donné, en fait, qui est l'une de ses compétences. C'est comment accompagner les personnes qui sont en difficulté. Donc on a du mal à comprendre cette décision. Et ce qui impacte aussi l'association, c'est que c'est pas comme si en fait on n'avait pas des publics qui venaient, c'est pas comme s'il n'y avait pas des publics qui étaient dans la galère, qui ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement de la part de l'APU FIV, et ça marche pour d'autres APU, pour d'autres associations aussi qui ont pu subir ces coupes budgétaires. Donc ouais, c'est un coût financier qui est important, mais c'est surtout un coût en termes d'accompagnement en fait possible aussi avec moins de budget. Donc voilà, ça c'est l'enjeu sur lequel on s'était mobilisé en 2023 pour contester cette perte, ou en tout cas pour demander à ce que cette subvention en fait soit à nouveau attribuée, parce que c'est pour un travail qu'on mène. Donc à un moment donné, c'est aussi ça l'incompréhension.
Ce samedi 30 mars, c'est la fin de la trêve hivernale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les gens et vous, qu'est-ce que vous réclamez? Alors une trêve éternelle, c'est ça?
C'est ça. La fin de trêve, ouais, c'est le 31 mars. Ça veut dire que dans les minutes qui suivront, les personnes pourront légalement à nouveau être expulsées de leur logement. Je dis légalement parce que on a moins de chiffres, on a moins d'informations, mais c'est parce qu'il y a une trêve qu'il n'y a pas d'expulsion. Il peut y avoir des expulsions parce que les gens ont pu méconnaître leurs droits, ont pu voir un huissier ou un propriétaire ou qui que ce soit débarquer et leur dire « il faut partir, vous êtes en situation d'expulsion, vous partez ». Quoi. Il y a des gens qui peuvent partir parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent se défendre, qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent refuser. Et là, à partir donc de dimanche soir, du 31 mars, ce qui se passe quand je dis la légalité, c'est-à-dire que la préfecture peut à nouveau octroyer le recours à la force publique, c'est-à-dire qu'un huissier, par exemple, pourra être accompagné par les forces de l'ordre pour mettre les personnes littéralement à la rue. Et donc nous, si on fait cette manifestation ce samedi 30 mars à 14h30 à Grand Place, c'est justement pour dire non déjà à ces expulsions locatives, mais aussi, ce serait déjà la moindre des choses, c'est non aux expulsions locatives sans proposition de relogement. À un moment donné, quand on expulse une personne, une famille de son logement, on fait quoi après? L'idée, c'est quand même de trouver aussi des solutions. Ça peut arriver qu'il y ait des solutions proposées qui soient une nuitée d'hôtel, deux nuitées d'hôtel, trois nuitées d'hôtel, et après. Ça suffit pas, en fait, pour une personne, pour une famille qui se trouve dans la galère du jour au lendemain. Donc nous, c'est pour ça, en fait, qu'on se mobilise. C'est pour que, à la fois, les pouvoirs publics comprennent que, en fait, c'est pas possible, qu'on peut pas laisser des gens à la rue pour telle ou telle problématique liée à son logement. Faut proposer des solutions aux personnes. Et c'est aussi pour alerter l'opinion publique aussi, pour leur dire, en fait, il se passe ça, et il va se passer ça à partir de lundi, à partir du dimanche soir. C'est ça qui va se reproduire, des expulsions autorisées avec le recours à la force publique par la préfecture. Et donc voilà, c'est une bataille qu'on mène depuis de très longues années, et on espère qu'on sera entendu, que les personnes aussi qui vivent ces conditions, ces situations, soient entendues aussi.
Tu l'as dit, il y a cette action, ces revendications, et puis il y a aussi toute la réflexion à laquelle vous participez, que vous alimentez. Il y a cette soirée-là autour de la question de l'urbanisme autour des Jeux Olympiques. Il y a eu aussi d'autres événements dans ce festival qui s'appelle À nous la ville, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus?
Ce festival, ouais, À nous la ville, donc c'est la troisième édition de ce festival. On avait déjà fait un festival pour les 5 ans de l'association, puis il y a 2 ans maintenant. Et là, c'est pour les 10 ans de l'association, mais c'est plus symbolique qu'autre chose, les 10 ans, hein, parce que c'est quand même une envie collective de parler de ces questions de logement, mais pas que. Hein. Là, on a fait tout un mois de mobilisation qui a commencé le 4 mars avec des cantines qu'on mène tous les lundis midi 30, on fait des cantines véganes à prix libre pour les personnes du quartier, mais pas que. Et en fait, on a fait toute une série d'événements plutôt en soirée, comme une projection d'un film réalisé par les centres vidéo de Bruxelles. C'est les ateliers urbains qui sont hébergés par ce centre vidéo Bruxelles autour on va dire, un groupe de personnes, un groupe de Belges qui ont décidé d'aller visiter les beaux quartiers de Bruxelles. C'était vraiment un chouette moment. Donc, et ce film-là, que j'invite les personnes à aller consulter, il me semble que c'est sur Internet, c'est Escapade chez les Escapés. Donc l'équipe du film était là et c'était vraiment un très beau moment. On a fait aussi, c'était une balade en bus dans les quartiers riches de la métropole de Lille. C'était l'occasion de faire découvrir des choses, je pense, à des gens. Parce que ce n'est pas forcément des gens qu'on fréquente tous, des gens aussi, mais aussi des territoires qu'on fréquente peu, que ce soit à Bondu, à Croix, à Marc-en-Barœul ou autre, voir un peu à quoi ressemblent les golfs qu'on ne voit pas.
Donc ça, c'est un safari photo chez les riches, c'est ça, hein?
On l'avait appelé le safari chez les riches. Donc ça, c'était il y a 2 semaines. Et on a pu faire aussi une présentation de la revue AA, qui est une revue d'architecture. C'était leur premier numéro. C'est une revue d'architecture qui là partait d'une personne, d'un individu, Jean Smilowski, qui a vécu dans le Vieux-Lille, dans une cabane, pendant des décennies. Et donc cette revue-là, c'était vraiment l'occasion de s'intéresser aux personnages, mais aussi à la bricole, à la production de l'habitat bricolé par ce monsieur-là, et sur comment aussi il a dû partir de cet endroit-là. On a pu faire aussi, c'était dans le cadre du festival aussi, c'était la présentation du livre « Tenir la ville » du collectif Asphalte, un livre autour du capitalisme urbain, autour de c'est quoi en fait pour une personne en fait vivre dans une ville, dans une métropole, quand en fait on a peu de marge de manœuvre en fait sur cette ville. Finalement, c'est les pouvoirs publics, c'est les entreprises du BTP, c'est plein d'acteurs privés comme publics qui ont tendance à choisir aussi pour les personnes ce qui va s'implanter, les types de construction, les types d'habitat aussi, et qui a des répercussions forcément sur les personnes qui, si on est trop précaire, on va devoir peut-être la quitter, ou en tout cas avoir une ville qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas faite pour nous personnellement. Donc ça, c'est toutes ces choses-là qui sont abordées par ce livre-là, « Tenir la ville ». Et là, j'en viens au dernier jour. Donc là, on a fait mercredi 27 mars une soirée autour de la rénovation urbaine avec Ali Rani, qui s'est particulièrement investi dans le quartier du Pile à Roubaix, avec Florian du collectif Non à la démolition de l'Almagare, donc mobilisé à Roubaix dans ce quartier de l'Alma, et avec également David Attier, donc, qui est journaliste et qui avait travaillé dans un territoire qui avait vécu la rénovation urbaine à Reims, le quartier de Croix-Rouge, et également Antonio Delfini, investi sur ces questions de rénovation urbaine, et on a fait un échange qui a duré 2h30 où c'était vraiment à la fois raconter ce qui s'est passé, raconter ce qui se passe maintenant, et prendre un petit peu aussi des fois un peu de distance aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi qu'à Roubaix, ailleurs que dans la métropole, que ce soit au niveau national mais aussi à Reims par exemple. Donc c'était vraiment un très beau moment qui avait été en plus de ça complété par des vidéos, des extraits vidéo plus exactement pris par Lucas Roxo, qui est membre de La Friche, un collectif de journalistes, et qui a diffusé des extraits d'un film en préparation sur justement ce qui se passe aujourd'hui à l'Alma. Et là, ce vendredi 29 mars, c'était une soirée autour des Jeux Olympiques et des violences que représentent ces Jeux Olympiques pour les habitants, notamment de la Seine-Saint-Denis, mais pas que. Et on a pu inviter Saccage 2024, collectif particulièrement mobilisé sur les Jeux Olympiques, mais aussi Jade Lingard, qui est journaliste à Mediapart et qui a sorti un ouvrage récemment sur une ville face à la violence des Jeux Olympiques. Et enfin Lou, qui est membre de la revue Z, qui est une revue itinérante qui a choisi de s'arrêter là cette année en Seine-Saint-Denis et qui prépare une enquête sur la Seine-Saint-Denis, mais aussi sur les effets de ces Jeux Olympiques et plus largement, on peut le dire, hein, sur tous ces grands projets inutiles qui bouleversent des vies des personnes qui y vivent.
Voilà, je vous signale qu'on entendra d'ailleurs bientôt sur Radio PFM des entretiens avec les intervenants de cette soirée anti-JO. On était avec Pierre Bénévole de l'APU de FIV, Atelier Populaire d'Urbanisme. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur cet asso sur leur site internet apufiv.org. Je vous signale que la musique qui illustre ce sujet est signée du rappeur E-Will du groupe La Jonction. E-Will qui était en concert lors de cette soirée organisée par la PAUFIV vendredi dernier à la Bourse du Travail à FIV.
Combien de temps continuera-t-on à creuser ce fossé? Quand une France dans l'opulence regarde l'autre s'enfoncer, parleras-tu de fractures comme si elle tombait du ciel? Te présenteras-tu devant les juges ou au présidentiel? De quel côté du périph', quel côté du canal? De quel côté du mur la violence physique ou mentale. De quel côté se faire la malle ou a-t-on semé la graine? De l'exclusion banale et du néant serait la haine. Qu'obtiendra-t-on de cette haine après manipulation? Peut-être un nouveau pion dans un rapport de domination. Sera-t-il prêt à commettre les pires abominations? Le pied au plancher, foncé dans la foule au volant d'un camion. Et face au malaise, suffira-t-il d'un éducateur? Combattrais-tu un feu de forêt avec un extincteur? Feras-tu des vagues politiques en surfant sur la peur? De quel côté, des corrompus ou des corrupteurs? Et pour sauver le monde, iras-tu mener des guerres quand tu ne sauves même plus les apparences sur tes terres, proches du peuple ou de la finance et des gros lobbies, des gros profits pour mieux faire économie d'écologie? Si le savoir est une arme, seras-tu l'ignorant soumis ou l'érudit pour justement ne jamais finir comme lui? Redoubleras-tu d'ingéniosité pour sauver autrui, ton savoir au service de l'homme ou de sa connerie? As-tu pris les armes parce que les secours ont tardé? Combattras-tu pour une terre, une famille ou un quartier, au nom d'une idéologie ou d'un pays bombardé? Où place-t-on la limite entre se défendre et attaquer? Brimer un peuple même après qu'on ait bafoué le tien? Je sais où est le mal, dites-moi où est le bien? Où est le lien qui nous unit? Si tu le sais, dis-moi vite. Où dans ce monde puis-je déterrer le peu d'espoir qui l'habite? Auras-tu seulement la patience de faire preuve de réflexion? Et dans l'urgence, seulement le temps de te poser ces questions? Doit-on nous sortir d'une situation inextricable? Donner une explication même à l'inexplicable?